France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, bienvenue en direct ou en podcast sur la 42e rue, le rendez-vous du théâtre musical de France Musique. Il est un des metteurs en scène de théâtre les plus appréciés des acteurs, un des plus actifs, un des plus fins. Ladislas Chola, à même pas 43 ans, a déjà dirigé Fabrice Luchini, Robert Hirsch, Muriel Robin, Sandrine Bonner, François Berléand ou Lynn Renault. Il a déjà reçu le Molière du meilleur spectacle privé en 2014 pour le père de Florian Zeller, tout en commençant à mettre en scène des spectacles de variété de Julien Clerc, de la famille Chédid et des comédies musicales comme Résiste de France Gall et Oliver Twist, c'était à la salle Gaveau. Ladislas Chola a le théâtre et le texte chevillé au corps, lui l'ancien acteur qui dès le collège mettait en scène ses camarades de lycée et demandait à sa mère de fabriquer les costumes. Il se dirige ensuite vers des études de lettres à la fac, tout en créant sa propre compagnie théâtrale versée dans des auteurs classiques, Alfred de Musset, Jean Anouilh ou Beaumarchais. Il est repéré par le metteur en scène, Gildas Bourdet, qui en fait son assistant dans le théâtre public. Et puis la jonction avec le théâtre privé se fait pour lui en 2009, grâce à Pierre Lescure qui lui propose la mise en scène de Très chère Mathilde d'Israël Horovitz avec Lynn Renault au théâtre Marigny. Suivront la mise en scène d'entre 4 à 6 spectacles par saison, avec un style que certains qualifient de cinématographique. Aujourd'hui, Ladislas Chola réalise justement son premier film, Let's Dance. Ce n'est pas une comédie musicale, mais un magnifique film sur la danse et sur la vie d'artiste, avec d'excellents acteurs et danseurs, Ryan Bensetti, Alexia Giordano, Mehdi Kerkouche, et un scénario à la fois réaliste et plein d'espoir. Bonjour Ladislas Chola.
Bonjour, je suis tellement heureux d'être dans votre émission, Laurent, parce que je l'écoute souvent. Et cette émission, elle a fait partie de mon envie de comédie musicale. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La comédie musicale, on l'a compris quand même, c'est pas forcément ce que vous avez exploré le plus, mais je crois qu'elle vous attire. Vous l'avez montré en mettant en scène, eh bien, deux comédies musicales, Résiste et Oliver Twist. Aujourd'hui, c'est vous qui programmez 42e rue.
Passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse et d'un égoïste, la groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à pas rêver seule dans son lit, le soir entre ses bras roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la groupie du pianiste. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la groupie du pianiste. Suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose à côté d'être seule sur terre. Et elle y pense seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Son sourire, elle a des droits sur ses désirs, la groupie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la groupie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la groupie du pianiste. Mais Dieu que cette vie prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle l'aime, elle l'adore, plus que tout elle l'aime, c'est beau comme elle l'aime. Elle l'aime, elle l'adore, c'est fou comme elle l'aime, c'est beau comme elle l'aime.
Ladislas la programme, aujourd'hui 42e rue sur France Musique, c'était Gwendal Marimoutou, la groupie du pianiste, parce qu'en 2015, eh bien, vous mettez en scène Résiste de France Gall et de Bruck David. C'est votre première comédie musicale, on peut dire que ce moment-là qu'on vient d'entendre, c'est la fin du premier acte, c'est un moment complètement jubilatoire, on a l'impression que tous les spectateurs sont debout devant le chanteur,
acteur. C'est exactement ça. En fait, à ce moment-là, le palais des sports se mettait debout pendant la chanson et on finissait dans une sorte de fête incroyable. Je crois qu'il y avait beaucoup de joie en fait du public en fait de retrouver ces chansons qu'ils n'avaient pas entendues sur scène comme ça avec une orchestration qui était très proche de l'original. Et puis, il y avait toute l'énergie des danseurs de Marion Motin qui, d'un coup, se mettaient en feu et en transe à ce moment-là. Et je dois avouer que rien que d'en rentrant la chanson, j'ai mon cœur qui bat, il y a de la joie, quoi.
Alors, on l'a dit, jusque-là, vous faisiez du théâtre, classique, enfin, en tout cas, du théâtre parlé. Qu'est-ce qui vous avait donné envie d'accepter la proposition de France Gall de mettre en scène une comédie musicale?
En fait, c'est arrivé par étapes. Il y a d'abord, en fait, un temps de collaboration avec Julien Clerc. Pendant un temps, Julien, en fait, venait souvent voir mes spectacles au théâtre. Et pendant un temps, on a rêvé une comédie musicale avec Julien qu'on n'a pour l'instant jamais faite. Et puis, de là, j'ai mis en scène ses concerts, à défaut d'arriver à créer ce spectacle musical. Puis, Thierry Suc m'a proposé de mettre en scène le concert de la famille Chédid, qui est un moment génial, parce que avoir une famille sur un plateau, c'est quelque chose de tellement beau, quoi. Une famille qui travaille ensemble. Ça n'a pas été un travail très long, mais ça a été merveilleux pour moi de vraiment travailler autour de chansons, autour de la musique. Et puis de là, Thierry Suc m'a présenté France Gall en me disant, voilà, France Gall veut faire une comédie musicale avec les chansons de Michel Berger et toutes celles qu'elle a interprétées. France Gall, elle avait été très inspirée par Mamma Mia, qu'elle avait vue à Londres. Et c'est cette comédie musicale qui lui avait donné l'envie d'en faire une. Et France, quand je l'ai rencontrée, elle avait une idée déjà très précise avec son complice Bruck David de ce qu'elle voulait faire. Et puis, je suis arrivé en fait avec un décor, c'est-à-dire que j'ai tout très vite avec ma scénographe créé un décor, je lui ai dessiné, je lui ai dit voilà moi c'est quand vous me parlez de votre projet, c'est vers ça que je veux aller. Et là elle m'a dit ça ressemble pas du tout à ce que j'ai dans la tête, donc je vais partir avec vous. Et c'était une collaboration à la fois généreuse et houleuse, parce que France elle avait un sacré caractère, mais toujours, il y a quelques fois où on était en désaccord, très franchement, mais toujours elle venait me récupérer. Elle avait l'intelligence de changer d'avis, France, et de dire non, attends, excuse-moi, reviens et on continue à travailler ensemble. Et ça a été super, quoi. Voilà.
Comment vous découvrez la comédie musicale, vous vous rappelez?
Moi, en fait, je pense au tout début, je crois que c'est Mary Poppins, en fait, que je vais voir au cinéma. À la maison, il y avait un disque d'Émilie Joly.
Julien Clerc.
Julien Clerc, exactement. Et d'ailleurs, dans le dernier concert de Julien Clerc, on s'est amusé à remettre en scène la chanson du Grand Oiseau avec une petite Émilie qui arrivait à chaque fois.
Et le premier spectacle à Broadway que vous allez voir, c'est quoi?
Le premier spectacle que je vais voir, c'est Beauty and the Beast. En fait, à l'époque, je suis absolument fan du dessin animé, que j'ai vu de multiples fois. Je suis assez fan des Disney en général. Et Beauty and the Beast, en fait, c'est le film de Disney, mais d'un coup que je vois en vrai. C'est comme si le dessin animé prenait vie face à moi, avec, je me souviens tout à fait de la transformation de la bête en prince à la fin, avec des effets magiques, et puis toute cette scène Be My Guest, où d'un coup, tous les gens habillés en couvert se mettent à danser, j'en sors, je vole pendant 2 semaines, quoi.
Et là, vous avez choisi Something There. Vous vous rappelez le moment?
Oui, bien sûr. Il y a quelque chose dans son regard. Ça, c'est le moment en fait où d'un coup le sentiment amoureux arrive. Et c'est une chose en fait, une question que je me suis toujours posée en comédie musicale, c'est pourquoi est-ce qu'on se met à chanter? Pourquoi est-ce que d'un coup on parle? Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné il faut se mettre à chanter? Et en travaillant sur les comédies musicales, je me suis aperçu que c'est souvent quand le sentiment arrive et qu'en un coup on est dépassé par son propre sentiment. Et c'est ce qui se passe dans cette chanson.
Susan Egan est belle, Terrence Mann est la bête. Un extrait de Beauty and the Beast à Broadway.
There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear and so unsure, I wonder why I didn't see it there before.
Come along, dearie, let's get you out of those wet things.
She glanced this way, I thought I saw, and when we touched she didn't shudder at my paw. No, it can't be, I'll just ignore. But then she never looked at me that way before. Belle, I have something to show you, but first you have to close your eyes. It's a surprise! All right. No!
Oh, I can't believe it. I've never seen so many books in my whole life.
You like it?
It's wonderful.
It's yours. That's all right.
No, really. You read it.
Oh, no, you.
No, you.
No. I can't.
You never learned to read?
Only a little and long ago.
Oh. Well, it just so happens that this is the perfect book to read aloud. Come here. Sit by me.
Well, who'd have thought?
Well, bless my soul.
Well, who'd have known?
Well, who indeed?
Well, who'd have guessed they'd come together on their own?
It's so peculiar, wait and see.
A few days more, there may be something there that wasn't there before.
Perhaps there's something there that wasn't there before.
What?
There may be something there that wasn't there before.
What's there, Mama?
Shh, I'll tell you when you're older. Come along, Chip.
Mélange de dialogue et de chansons dans ce numéro Something There, extrait de La Belle et la Bête. C'est drôle, c'est votre premier spectacle que vous voyez à Broadway, la Disla Chola. Jusque-là, en 98, vous avez mis en scène des petites pièces de théâtre, j'allais dire à Paris.
Non, pas à Paris. Je suis à Marseille à ce moment-là, en 98. Je mets en scène du théâtre amateur. Bon, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de faire partie d'une école de théâtre. En fait, j'ai toujours inventé, en fait, comme ça. J'ai découvert le théâtre au collège. J'ai créé une association avec mes amis de collège. Certains sont encore là dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Et puis donc quand je vais à Broadway, non, c'est là pour moi c'est totalement magique de voir la magie de Broadway, de voir le nombre de gens sur scène, les costumes, les changements de décor, etc. Là, je suis comme un gamin et rien qu'en y repensant, je suis encore totalement gamin en repensant à ce moment-là où je découvre cette comédie musicale.
Ça donne des idées ?
Ah bah bien sûr, ouais. Quelque part, sans doute, le germe de la comédie musicale, il naît à cet endroit-là, tout en me disant, jamais je pourrais faire d'un spectacle comme ça. Jamais j'en aurais les moyens. C'est voilà, j'ai l'impression que c'est très très haut, quoi, pour d'atteindre ce genre de spectacle.
C'est quoi, c'est le nombre de gens sur scène? C'est le fait qu'il y a un orchestre? C'est le fait qu'il y a des décors incroyables?
Franchement, c'est là, ouais. Et puis c'est les artistes qui, en fait, sont tellement doués, en fait, à la fois pour chanter, danser et jouer la comédie. C'est leur perfection, en fait, qui m'épate, quoi. Leur professionnalisme absolu. Et puis en effet les moyens, parce que c'est vrai qu'ils ont des moyens qu'en France on n'a pas.
Autre choix, la Disla Chola, The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman, 1975, Tim Curry, Susan Sarandon. parodie de film fantastique rock où un couple de jeunes mariés, on se rappelle, hein, entre au hasard d'un pneu qui crève dans un manoir inquiétant où il y a un docteur Frankenstein qui donne naissance à un monstre travesti hypersexué. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film musical?
Déjà, j'adore que vous ayez choisi La Belle et la Bête et le Rocky Horror Show, parce qu'en même temps, ça représente assez mon éclectisme, parce que moi, je suis exactement entre ces deux choses-là, si vous voulez. Mais après, ce qui me plaît, c'est la provoque, en fait. C'est le côté très sexuel de la comédie musicale. C'est comme une comédie musicale où, à la fin, il y a les extraterrestres qui arrivent. Enfin, c'est un espèce de grand n'importe quoi. Mais musicalement, ça tient. Les chansons, on les retient. C'est hyper joyeux. Suzanne Sarandon est absolument incroyable. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, c'est un ami du lycée qui me dit, tiens, regarde ça, c'est génial, etc. Et il me dit, un jour, faudra qu'on le fasse. Bah, un jour, j'aimerais bien. En tout cas, le Rocky Horror, un jour, monter le Rocky Horror Show, un jour, c'est parti des rêves.
Et je trouve que ça n'a pas vieilli.
Non, ça n'a pas vieilli. La musique, elle est géniale.
C'est corrosif et aujourd'hui encore. Hein.
Ah, ça marcherait totalement.
I was feeling done in. Couldn't win. I'd only ever kissed before.
You mean she?
I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more.
More.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, 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 touch me.
Suzanne Sarandon, Touch Me, extrait de The Rocky Horror Picture Show, le choix de notre invité aujourd'hui sur la 42e rue Ladislas Chola.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Le prochain choix est aussi corrosif, je trouve, Avenue Q, comédie musicale composée par Robert Lopez qui ensuite composera la musique de La Reine des Neiges, mais auparavant, voilà, il n'était pas connu. Vraiment, c'est une parodie de Un rue Sésame, avec des personnages marionnettes et humains aussi sur scène. Et on suit les habitants d'une rue qui se trouve tous un peu loser. Ils représentent bien la société actuelle. Il y a le fan de films porno, il y a une puéricultrice, il y a une ancienne vedette au chômage. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette comédie musicale Avenue Q?
Alors moi, je la découvre en France, je la découvre à Bobino. Déjà avec un casting incroyable, Prisca Desmarais, David Alexis, entre autres, qui sont des artistes avec lesquels je travaillerai plus tard en fait. Je ne sais pas au moment où je découvre la comédie musicale, j'aurai la chance de travailler avec eux.
Vous les embaucherez pour Oliver Twist?
Je les embauche pour Oliver Twist, ouais, exactement.
Que vous montrez Salgavo.
Mais en fait, ce qui me plaît déjà, franchement, c'est encore une fois le côté hyper gonflé. Moi, j'étais vraiment un gamin hyper sage, moi. Et j'ai toujours adoré les voyous, quoi. Ceux qui étaient vers le radiateur, qui étaient audacieux, qui balançaient des vannes. C'était pas du tout moi. Donc, en fait, j'adore forcément. Parce que c'est hyper irrévérencieux, cette comédie musicale-là. Et puis, il y a tout le travail de la marionnette qui me fascine.
C'est-à-dire ah oui.
Que hyper inventif, en fait, en termes de mise en scène. C'est-à-dire que les acteurs, à la fois, ont cette marionnette qui devient vraiment un personnage à part entière, en fait. C'est-à-dire que, on se se met à regarder la marionnette comme si c'était vraiment elle qui parlait. Il y a tout un jeu où ils changent de marionnette, c'est-à-dire que ils ont chacun un personnage, mais parfois la marionnette change de bras et c'est comment dire, l'autre acteur continue à faire la voix. Enfin, bon, c'est hyper bien foutu. Je trouve ça hyper inventif. Je sors gamin, quoi. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs des comédies musicales. Moi, c'est un genre qui me ramène à l'enfance en fait, en permanence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je vais voir une bonne comédie musicale que j'ai 12 ans. J'ai l'impression que le temps n'a pas passé et que ça projette ça en moi, en fait, la comédie
musicale. Et en même temps, c'est presque une comédie musicale sociale, Avenue Q, parce que ça raconte la réalité d'aujourd'hui,
bien
du
sûr,
chômage,
hein.
etc.
Ouais,
le texte est important, j'ai l'impression,
le
dans vos choix de...
Oui, bah, je trouve d'ailleurs que c'est un des défauts, parfois, qu'on peut avoir en France, de ne pas accorder assez d'importance au texte, à la construction.
Pour la comédie musicale, vous voulez dire?
Ah, ouais, c'est sûr, oui. Moi, je trouve qu'il faut à tout prix... c'est vrai que les grands auteurs de comédie musicale, ils sont extrêmement importants. Moi, je suis très heureux quand je tombe sur une comédie musicale où j'ai une vraie structure, où j'ai de quoi nourrir les acteurs, parce que un grand metteur en scène, il n'est là que s'il y a un bon texte, en fait. S'il n'y a pas de bon texte, on peut rien faire, en fait, on peut pas faire grand chose.
Alors je vous propose d'écouter ceux dont vous avez parlé, parce que j'aurais pu choisir un extrait de l'enregistrement d'Avenue Q à Broadway, mais il se trouve qu'ils étaient venus sur la 42e rue en concert: Chirel, David Alexis, Prisca Desmarais, Emmanuel Suarez, Emmanuel Catra, Gaëtan Borg, Alice Lynn, Jean-Michel Vaubien, Philippe Aglaé, Virginie Ramis et au piano Raphaël Sanchez. Je vous propose le morceau que vous aviez choisi, mais donc en français, comme vous l'avez découvert à Bobino. Ça craint d'être moi. On découvre en fait les différents protagonistes. C'est la chanson du début. Ils sont tous mal dans leur peau dans ce quartier éloigné de Manhattan. Et le héros, tout aussi loser, atterrit Avenue Q, parce que voilà, l'éloigné, c'est moins cher que Avenue A.
Salut Brian.
Salut Kate Monster.
Ça va aujourd'hui?
Comme un lundi.
C'est bête, on est vendredi.
Moi, je viens d'apprendre que je touche plus le chômage. J'ai pas mes heures.
Ah, je suis désolée.
Bon, je vais tout laisser tomber. J'ai fini le conservatoire il y a 10 ans, j'avais un plan de carrière qui...
Quoi ?
Rien, c'est ridicule.
Mais si, vas-y !
Quand j'étais petit, je me voyais déjà...
Quoi ?
Vedette à la télé, star de cinéma. Maintenant j'ai 38 ans, et regarde-moi, je suis une merde.
Oh.
Ça craint...
Quoi ?
Ça craint d'être moi.
Mais non.
Ça craint d'être moi.
Arrête.
Ça craint d'arriver à 38 ans fauché et sans boulot. Ça craint d'être moi.
Tu trouves que ta vie craint?
Bah ouais.
Tu connais pas la mienne. Je suis pas trop blonde et on me dit jolie.
Bah c'est vrai.
Merci. J'aime la musique, la fête, l'art contemporain. Je suis romantique et j'ai le cœur sur la main. Pourquoi je me trouve pas un mec? Chier, ça craint d'être moi.
C'est rien ça.
Ça craint d'être moi.
Ça craint d'être moi. Ça craint d'être Brian.
Ou Kate.
Pas de boulot du tout.
Jamais un petit coup.
Ça craint d'être moi.
Nicky,
vous pouvez venir une seconde, on a un problème.
Lequel?
On a deux vies nazes, ok. Mais laquelle craint le plus, la sienne ou la mienne?
La nôtre.
On vit au coloc.
Entre nous, c'est une horreur.
Pourtant, on est super potes.
Oui, mais on se connaît par cœur. Du coup, il fait exprès de me rendre vraiment dingue. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas changé de fringue.
T'exagères, t'as qu'à dire que je schlingue.
Tu es désordonné, tu ne fermes pas les placards.
Ah ouais. Tu fais des trucs chelous, comme repasser tous tes slibards.
Tu fais de notre appart une vraie porcherie. Sois poli.
Mais tu pourris ma vie.
Oh, ça craint d'être
non,
moi.
Non, ça craint d'être moi.
Ça craint d'être moi.
Ça craint d'être moi.
Est-ce qu'une seule personne ici a une vie qui ne craint pas? Ça craint d'être moi.
Parce que notre vie
craint. Votre vie craint. Vous savez pas quoi c'est, vie qui craint. Je viens aux États-Unis pour prendre plein de pognon. J'ai monté un restaurant chinois, mais je suis japonaise. Alors pour faire de la thune, je reprendrai tout et je réussis.
Mon fiancé a pu un rond, y a des femmes. Excusez-moi.
Salut.
Pardon de vous déranger, mais je cherche une piole.
Pourquoi tu cherchais piole dans quartier merdique?
Ben, les prix. L'avenue A, c'était trop cher. L'avenue B, c'était très cher. Donc, avenue Q. Oh, regardez, j'ai bien fait. Il y a un panneau à louer.
Il faut que t'en parles au concierge. Je vais te le chercher.
Oh, génial, merci.
Ya Willy. Il demande.
Oh, mais c'est Gary Coleman d'Arnold et Willy.
Non, moi je suis l'autre.
Moi je suis le Willy de Arnold et Willy. Le grand, le beau gosse que vous avez tous oublié. J'ai été une superstar non identifiée. Mais je suis là et genre les poubelles, mec, sur la vie du qui.
Ça craint d'être toi.
Tu gagnes.
Ça craint d'être toi.
Du coup, moi je vais mieux.
Imaginez qu'on vous demande tout le temps.
Qu'est-ce que tu me racontes là?
Oh, mais ouais, c'est exactement comme ça qu'il s'est. Non?
Mais c'était la réplique de l'autre!
Ça craint d'être toi sur l'avenue Q.
Ça craint d'être moi
sur l'avenue Q.
Ça craint d'être toi
sur l'avenue Q.
Ça craint d'être nous.
Sauf quand on est ensemble, tous ensemble ici sur l'avenue Q. On vit sur l'avenue Q.
C'est trop bien ici.
On vit sur l'avenue Q.
Et tu vas t'éclater.
On vit sur l'avenue Q.
Voilà tes clés, mec.
Bienvenue sur l'avenue Q.
Avenue Q. Traduction en français de Bruno Gassiot. Ils étaient venus sur la 42e rue de France Musique et c'était l'ouverture de ce spectacle choisi aujourd'hui par Ladislas Chola, notre invité sur la 42e rue. Alors, prochain choix, Ladislas Chola, et là je pense que c'est une comédie musicale fondatrice pour vous, Billy Elliot, d'après le film de Stephen Daldry. Alors, Billy Elliot, on connaît le film. Ça raconte l'histoire de l'enfant d'une famille ouvrière qui, durant les grèves de mineurs en Angleterre, veut à tout prix prendre des cours de danse, même s'il est le seul garçon en classe. Une comédie musicale, ensuite, à l'affiche à Broadway, mise en scène d'ailleurs par le réalisateur Stephen Daldry, à Broadway et à Londres durant plus de 10 ans, avec une musique signée Elton John. Pourquoi elle a l'air si importante pour vous, cette comédie musicale?
Bah d'abord parce que, en fait, vraiment, ce film, ce qui est un film de danse, moi, c'est vraiment le film de danse que je mets au plus haut, en fait, dans ce genre-là, film de danse.
Et maintenant, le film qui n'est pas chanté, le film initial.
Voilà, le film
d'André.
Initial, exactement, le film initial. Mmh. Et puis après, quand je vais voir le spectacle, bah voilà, quoi. Enfin, moi, je dirais que c'est une des plus grandes émotions de spectateur. Le moment où le gamin se met à danser et se tape, se fracasse contre les CRS, cette espèce de mélange de petite histoire et de grande histoire qui se mélange, je pourrais en pleurer en parlant, en fait. Parce que c'est ça aussi la comédie musicale, c'est que ça procure des telles émotions que ces émotions qui restent, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'adore dans ce genre. C'est un genre qui me bouleverse profondément. Et cette comédie musicale m'avait profondément bouleversé.
C'est le morceau que vous avez choisi qui s'appelle Electricity, qui est donc, quoi. C'est un moment où, en fait, il passe son audition.
Exactement.
Et en même temps, on voit parallèlement, c'est pas que les CRS sont en train de danser, mais presque face à eux, quoi.
Oui, il y a ça. Et puis surtout, en fait, c'est un moment donné où il manque de rater, en fait, cette audition. Et où d'un coup, on lui dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu aimes la danse? En fait, c'est une question toute simple. Et c'est drôle parce que j'ai récemment, en fait, aidé ma nièce qui passait le concours du conservatoire. Et quand elle m'a dit, ils vont me demander pourquoi je fais le conservatoire. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Écoute cette chanson. Tout est là, en fait. La réponse. Et en fait, encore une fois, ce film raconte la naissance d'un artiste. Et moi, quand je viens de réaliser le film que je viens de faire, j'ai pensé beaucoup à Billy Elliot parce que, moi, mon héros a 25 ans, mais ça raconte la même chose, en fait.
Dans Let's Dance, qui sort mercredi.
Let's Dance, c'est aussi la naissance d'un artiste. Et il y a quelque part, forcément, une influence de Billy Elliot dans ce film. Mon film est beaucoup moins social que les Billy Elliot. Et c'est aussi, comme vous l'avez dit, la force, en fait, de ce film. C'est d'avoir la petite histoire et la grande histoire qui se mêlent. Et puis, j'adore ce metteur en scène, Stephen Daldry. Je suis encore allé à Londres voir une pièce, c'est bien scène par lui, qui s'appelle The Inheritance, il y a à peine 6 mois. J'étais ébloui par son travail. Et j'adore aussi ce metteur en scène parce qu'il va du cinéma à la mise en scène de comédie musicale, à la mise en scène de comédie de théâtre. C'est un peu un modèle, hein, pour moi, Stephen Daldry. Si j'arrivais un peu à la cheville de sa carrière, je serais heureux.
Voici le moment de l'audition donc, du jeune Billy à l'école du Royal Ballet et l'une des examinatrices qui lui demande pourquoi il danse. Liam Mower et Billy.
Can I just ask you, Billy, what does it feel like when you're dancing?
I can't really explain it.
I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are. But at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in your ear. And I'm listening, and I'm listening, and then I disappear. And then I feel a change, like a fire deep inside. Something burst in me, wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, electricity. Sparks inside of me, and I'm free, I'm free. It's a bit like being angry, it's a bit like being scared. Confused and all mixed up and mad as hell. It's like when you've been crying and you're empty and you're full. But I don't know what it is, it's hard to tell. It's like that there's music playing in your ear. But the music is impossible, impossible to hear. But then I feel it move me, like a burning deep inside. Something burst in me, wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, electricity. Sparks inside me.
Free, I'm free, free.
Electricity, le moment de l'audition de Billy Elliot dans cette comédie musicale inspirée du film de Stephen Daldry avec une musique d'Elton John. Ladislas Chola est notre invité aujourd'hui sur la 42e rue et programme l'émission. Votre film, votre premier film sort mercredi, Let's Dance. Ça m'a fait beaucoup penser à Fame. En fait, c'est plus contemporain. On n'est pas dans une école américaine, on est bien à Paris. Il y a quand même une énergie, une émotion tout à fait similaire autour de jeunes qui veulent réussir dans la danse. Alors, on n'est pas dans la pop musique, on est plutôt dans le hip-hop. C'est pas une comédie musicale, ça chante pas, mais il y a des superbes numéros de danse. Alors, c'est l'histoire de Joseph qui monte à Paris avec sa copine et un ami Karim, plein de rêves pour montrer ce qu'il sait faire en hip-hop. Il passe une audition qui se déroule bien et puis les choses vont se corser et son parcours va croiser celui de danseur de ballet classique et notamment d'un prof très imaginatif, ancien danseur incarné par Guillaume de Tonquédec, qui va lui apprendre ce que c'est que chorégraphier. Moi, j'ai adoré ce moment où ils sont placés comme ça, pas loin de la rue de Passy, en train de regarder les gens qui bougent. Et il est en train de lui dire, regarde, voilà, inspire-toi des gens qui bougent pour créer tes numéros. C'est inspiré d'un film britannique de 2010, votre film Let's Dance, Street Dance 3D, mais vous y avez mis votre touche dans un scénario épaulé par Joris Morio, auteur d'une série pour ados qu'on a vue sur OCS Les Grands. Qu'est-ce qui vous a intéressé quand on vous a proposé de mettre en scène cette histoire au départ que vous avez ensuite réécrite?
En fait, très franchement, quand les producteurs sont arrivés avec ce scénario, ils voulaient que je fasse un remake de ce film, je leur ai dit, moi, faire un film de danse, oui, tout de suite. Mais pas faire ce film de danse là, parce que dans ce scénario, la danse, elle était considérée comme une compétition sportive à qui allait sauter le plus haut, etc. Et moi, en fait, j'ai essayé de mettre ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Paris dans le monde du théâtre dans ce film là. C'est-à-dire que, évidemment, je connaissais rien à la danse, donc, mais j'ai essayé de mettre ma propre histoire dans ce cadre qui est le hip-hop et la danse classique. Et moi, comme Joseph, le héros de mon film, j'avais extrêmement peur de moi, j'étais plein de doutes, je me sentais absolument nul, j'ai l'impression d'être un imposteur en permanence. Je savais que je voulais devenir metteur en scène, mais j'avais très très peur de moi. Et j'ai eu sur ma route quelques personnes qui m'ont donné déjà qui m'ont fait confiance, qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit voilà, je te fais confiance, ce qui est énorme en fait dans une carrière. Et qui m'ont dit des phrases clés que j'ai retenues toute ma vie, sur lesquelles je me suis construit. Et dans la relation entre Joseph, incarné par Ian Bensetti, et Rémi, incarné par Guillaume de Tonquédec, j'ai mis ces phrases-là. Pour moi, c'est un film qui parle de la transmission, ce film-là, et qui parle de la naissance d'un artiste, de comment est-ce qu'un type renonce à copier les autres pour finalement s'intéresser à ce qu'il a à l'intérieur de lui, à son émotion, et comment est-ce qu'il arrive à retranscrire cette émotion dans la chorégraphie.
Quelle phrase, par exemple?
Moi, je me souviens d'une phrase que m'avait dit Jack Gamblin, par exemple. J'étais assistant metteur en scène à ce moment-là. Il m'avait dit, toi, tu cherches toujours à plaire, mais plaire, c'est quand même inutile de plaire. Cherche ce qu'il y a là, au fond de toi. C'est ça qui est intéressant. Ça, je le fais dire, en fait, à mon personnage, à un moment donné, juste avant cette scène du rond-point dont vous parliez tout à l'heure. Et voilà, c'est une phrase qui, en effet, m'a plu. C'est-à-dire de dire, lâcher le fait de plaire. C'est pas intéressant de plaire.
Alors, je parlais de Fame. Vous regardez des films, c'est votre premier film. C'est un film de danse. Comment on s'y prend? Parce que c'est quand même pas pareil, mettre en scène des acteurs sur une scène et de réaliser un film.
Très franchement, j'ai vu pas mal de films, ce qui m'a permis de voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas dans les films de danse. J'ai essayé de respecter les codes du film de danse. Encore une fois, moi, je suis un metteur en scène qui respecte en fait les textes, etc. Et dans un film de danse, il y a comme ça toujours un mélange de genres qu'on retrouve dans Save the Last Dance ou dans Sexy Dance. Il y a souvent un professeur. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve assez habituellement dans le genre film de danse. Donc, j'ai essayé de respecter ça et puis d'y mettre ma patte. Et puis après, le passage de la scène au cinéma, très franchement, il s'est passé extrêmement facilement parce que c'est mon premier film et j'ai 43 ans. Je n'ai plus peur comme mon héros. Et en fait, je me suis entouré beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que 80% des gens qui sont dans ce film, c'est leur premier film comme moi. Ce qui a généré une ambiance géniale sur le plateau. Parce que on se pinçait en permanence en disant, oh là là, on est en train de faire du cinéma, c'est dingue. Et puis, commencer à faire du cinéma avec un film sur la danse, c'est formidable parce que les danseurs sont des gens rigoureux, sont des gens qui sont dans la joie de leur travail. Et tout ça, comme dans Fame, j'avais l'impression d'arriver sur un plateau de cinéma, c'était Fame. J'avais des gens qui s'entraînaient d'un côté, j'avais tout ce monde-là et ça a mis une joie dans le tournage qui, j'espère, se ressent dans le film.
Parfaitement, ça se ressent. Alors, la fusion entre le hip-hop et le ballet, Elle se déroule sur les quatre saisons de Vivaldi, revue, recomposée, restructurée par le pianiste et compositeur britannique Max Richter. Pourquoi ? Écoutez, c'est un très beau moment dans le film.
Très franchement, cette musique, je l'ai découverte dans ma salle de sport, en faisant du sport. J'avais la musique et d'un coup, j'ai vu le mélange des deux et j'ai eu ma fin de film en fait. Ça, c'est la musique qui m'a amené la fin du film. Comme souvent, c'est la musique, elle est source d'inspiration permanente en fait. Et moi, je me nourris beaucoup de la musique. D'un coup, j'écoute une musique, puis les images viennent en fait comme ça. Et cette musique de Richter, bien avant que je tourne le film, etc., je savais qu'elle finirait mon film.
L'été, selon Max Richter. L'été des quatre saisons de Vivaldi, revu par Max Richter. Un extrait de la bande originale du film Let's Dance de Ladislas Chola, notre invité. Un film qui sort mercredi prochain.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Ladislas Chola qui choisit les comédies musicales aujourd'hui dans 42e rue. Next, Les Misérables. Vous m'avez dit un truc incroyable. Vous m'avez dit, j'ai eu la chance d'aller assister aux répétitions de Britannique sur les répétitions de Miss Saigon, une autre comédie musicale de Anna Boublil et Michel Schoenberg. Qu'est-ce que vous avez découvert?
En fait, Alain Boublil et Michel Schoenberg sont venus voir Oliver Twist. Ils ont bien aimé mon travail Et ils m'ont ouvert les portes des répétitions là-bas. Donc je suis allé à Leicester, en fait, en banlieue de Londres. C'était le départ en tournée de Miss Saigon. Mm-hmm. Et je suis resté quelques jours assisté aux previews, donc à la fois au spectacle le soir et à voir tout ce qui se modifiait l'après-midi. Et alors là, c'était une sacrée leçon. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, à la fois sur leur sens tellement pointu du spectacle. J'ai passé quelques moments avec l'ingénieur du son qui m'a montré comment est-ce qu'il implantait dans la salle une centaine d'enceintes, en fait, pour que le son soit absolument parfait. J'ai vu comment ils changeaient leur décor, etc. Enfin, c'était génial, en fait, d'assister au spectacle le soir. Je suis arrivé comme ça, j'ai vu Miss Saigon, bon, qui est déjà un choc émotionnel assez fort. Et puis, d'un coup, de voir comment ils fabriquaient. Et puis, l'humilité pendant les répétitions, c'est-à-dire que le fait qu'ils jouaient tous les soirs, mais tout le monde est là pendant ces répétitions d'après-midi, alors qu'ils jouent le soir, qu'on répète ou qu'on répète pas, parce qu'en fait le metteur en scène a besoin d'un tel ou d'un tel, les autres en fait sont tous au premier rang,
ah oui,
ils assistent à la répétition, personne n'a de portable, ils sont tous ultra concentrés sur ce qui se passe. Non, j'étais assez admiratif, je me suis dit, ah ça c'est bien, on peut imposer ça aux artistes français, je vais me battre pour ça. C'est toujours génial, je trouve, d'aller voir à l'étranger comment ça se passe. Là, je reviens du Japon, je viens de mettre en scène une pièce de théâtre à Tokyo, mais je sors tellement enrichi en fait des expériences à l'étranger, parce que on est très franco-français hein, chez nous, on regarde vachement, on est très entre soi, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien pour des artistes d'aller se nourrir d'autres façons de faire, quoi, d'autres façons de voir.
Alors, Les Misérables, donc des mêmes Alain Boubli, Claude Michel Schoenberg, pourquoi ce choix?
Parce que là, pour le coup, c'est un monument de la comédie musicale. Et moi, je dois vraiment dire que ça, pour moi, c'est un de mes rêves absolus un jour d'arriver à faire une nouvelle mise en scène des Misérables.
Vous savez qu'à chaque fois qu'on a monté Les Misérables en France, ça n'a pas trouvé son public quand même.
Mais c'est pour cette raison que je veux le faire. Parce que justement, jusqu'à présent, c'est notre patrimoine, c'est notre œuvre, c'est Victor Hugo. C'est un auteur, un compositeur qui sont des Français. Il y a eu la première scène de Robert Hossein, puis c'est parti avec tout le succès qu'on a connu à l'étranger. Ben, moi, j'ai envie que cette histoire qui est la nôtre, elle prenne enfin sa place en France et puis qu'elle soit un succès ici. Donc j'adorerais mettre en scène cette comédie musicale qui est pour moi devenue, enfin pour moi c'est un opéra en fait, c'est beaucoup plus qu'une comédie musicale, c'est très opératique et je trouve que ça aurait sa place sur tous les opéras de France, dans tous les opéras de France, Les Misérables.
Et vous avez choisi la fin très opératique du premier acte où tout le monde se met à chanter.
Oh, quelle fin!
Voilà, One Day More, je crois que Claude-Michel Schoenberg appelle ça le mur du son. Chacun chante son espoir du lendemain.
One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time, one day more.
I did not live until today. How can I live when we are parted?
One day more.
Tomorrow you'll be worlds away.
One Day More, la fin du premier acte des Misérables, avec en tête de distribution à Londres dans cet enregistrement Colm Wilkinson et Michael Ball. Donc on a bien compris votre rêve de mise en scène, Ladislas Chola. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça marche en France, puisque on a vu ça, le spectacle, même le film n'a jamais trouvé son public.
C'est quand même Victor Hugo, c'est un de nos plus grands auteurs français. C'est Bulbil Schoenberg, son français. Et cette histoire, elle est nôtre. Donc en fait, moi je pense qu'il faut un metteur en scène français, je veux bien me porter candidat, une équipe française, qu'on redonne ce texte dans une nouvelle version.
Mais en changeant quoi par rapport à ce que...
Moi par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, monter Les Misérables aujourd'hui, ça aurait du sens. La misère aujourd'hui, elle est partout, elle est... On sort de Paris, on est sur le périph, Les Misérables, ils sont là. Donc aujourd'hui, ça aurait un sens fou de remonter cette œuvre-là en montrant sa résonance avec notre actualité, de façon à que Les Misérables soient vraiment misérables, qu'ils soient... Enfin, il y a tout un travail, en fait, sur qu'est-ce que c'est que la misère aujourd'hui. Enfin, moi, je le vois, ça fait vraiment partie des œuvres que j'adorais un jour avoir la chance de monter en France, voilà.
Ladislas Chola, vous avez programmé 42e rue aujourd'hui. On termine par un coup de cœur, si j'ai bien compris. Pierre Samuel, dans Chicago, actuellement à l'affiche au Théâtre Mogador, qui incarne, alors on sait, Chicago, c'est cette comédie musicale de John Kander, Fred Ebb, Bob Fosse, inspirée de l'histoire de meurtrières dans les années 20 qui espèrent devenir des stars. Un spectacle qui parle de corruption judiciaire. Pourquoi Pierre Samuel, qui joue donc le mari trompé et qui chante à un moment qu'il est transparent d'ailleurs, de l'une des meurtrières, pourquoi ce choix?
En fait, il m'a envoyé un petit message sur Facebook, comme souvent les acteurs, ou par les réseaux sociaux, en me disant « voilà, venez voir mon travail, etc. » Je suis allé le voir dans Chicago. Déjà, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, je trouvais que la troupe était formidable, et je l'ai adoré dans ce rôle, et à vrai dire, deux semaines après, je lui ai fait passer une audition, et je viens de l'embaucher dans pour une pièce d'Agatha Christie que je vais créer, parce que je l'ai trouvé remarquable, à la fois fin, subtil, drôle. J'ai adoré ce qu'il faisait sur ce spectacle.
Alors, il se trouve qu'il est venu sur la 42e rue, avec tout l'orchestre de Chicago.
Je suis le père! Papa!
Daddy!
Vous m'entendez, hein? Ah non, vous m'entendez pas. C'est l'histoire de ma vie. Personne ne m'écoute jamais, vous avez remarqué? Vous me croyez pas? Personne ne me remarque jamais. Personne. Jamais. Même mes parents ne me remarquaient pas. Un jour, je suis allé à l'école. Quand je suis rentré à la maison, ils avaient déménagé. Si quand vous marchez dans la rue, devant vous un individu parle en faisant de grands mouvements, vous le remarquez. Si une personne au cinéma hurle « Il y a le feu, sortons de là, ça peut sauter à tout moment !» Vous le remarquez. Un homme n'a pas besoin de faire le zouave pour que les gens autour l'aperçoivent, à moins bien sûr que cet homme-là ne soit aussi discret et sans attrait que moi. Cellophane, monsieur cellophane, appelez-moi mesdames, monsieur cellophane, tout le monde voit à travers moi, passe devant moi, personne sait que je suis là, oui je suis cellophane, monsieur cellophane, appelez-moi mesdames, monsieur cellophane, tout le monde voit à travers moi, passe devant moi, personne sait que je suis là.
Tiens, Andy, t'es encore là? Je croyais que t'étais parti.
Oui, je suis encore là, je crois. Mettons que vous êtes un chaton. Si un homme vous donne du poisson et vous caresse affectueusement, vous le remarquez. Mettons que vous êtes une femme mariée et que votre homme dort à vos côtés dans le même lit depuis 7 ans, vous le remarquez.
Quand un homme se tient juste sous votre nez, que vous le vouliez ou non, vous le voyez. À moins que cet homme-là ne soit aussi insignifiant et inexpressif qu'on sait qui. Appelez-moi mesdames, monsieur cellophane, tout le monde voit à travers moi, passe devant moi, personne sait que je suis là. Oui, je suis cellophane, monsieur cellophane, appelez-moi mesdames, monsieur cellophane, tout le monde voit à travers moi, passe devant moi, personne sait que je suis là, personne sait que je J'espère ne pas avoir abusé de votre temps.
Pierre Samuel, Mr. Cellophane, extrait de Chicago, avec l'orchestre de Chicago dirigé par Dominique Trottin. Donc Pierre Samuel, si j'ai bien compris, Ladislas Chola, il vous a écrit un message sur Facebook.
Exactement.
Vous lui avez fait passer une audition, donc ça vaut la peine de vous écrire sur Facebook,
ah peut-être. Oui, vous dites ça, mon Facebook va être totalement envahi, mais bien sûr, non, bien sûr, de toute façon, encore une fois, tous les chemins mènent à Rome, hein. Facebook peut être un chemin.
Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui sur
c'est
la 42e rue.
Moi.
Et puis, on vous conseille de découvrir Let's Dance au cinéma à partir de mercredi prochain. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez la programmation musicale de Ladislas Chola. Vous pouvez vous abonner au podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux et puis noter, Ladislas, vous serez peut-être avec nous, le prochain cabaret 42e rue en direct du Carreau du Temple. Ça sera le dimanche 7 avril. Nous donnons une carte blanche à David Alexis, maître de cérémonie de la comédie musicale cabaret, Fagin, dans votre Oliver Twist, Ladislas Chola. Il nous prépare vraiment d'énormes surprises. Ça sera en direct sur France Musique. Et si vous voulez venir, réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Olivier Dupré, Perrine Minguy. On vous souhaite un bon dimanche. Restez avec nous dans un instant. Aurélie Moreau vous donne rendez-vous.
Rideau!
À réécouter sur francemusique.fr.